On va lire 5 versets. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, versets 11 à 15. 5 versets, Exode chapitre 2, versets 11 à 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta le regard sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton camarade ?» Il répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Parles-tu pour me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur, et se dit sûrement l'affaire est connue. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite loin du Pharaon et vint résider dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. Qui ne connaît cette belle histoire de Moïse ? Voué à la mort, exigé par Pharaon, peut-être que c'était Thotmès III ou encore Thoutmôsis III ou encore Ramsès II, on n'en sait trop rien finalement. Et ce bébé sauvé des eaux, Moïse, par l'intermédiaire de sa sœur, qui l'a placé dans une corbeille enduite de poix et de goudron, fut repéré par la fille du Pharaon, la princesse. Et durant le premier tiers de sa vie, durant les 40 premières années de sa vie, Moïse a vécu donc à la cour du roi d'Égypte en tant qu'Égyptien. Il a reçu toute la formation qu'un prince d'Égypte pouvait recevoir. Et l'historien Flavius Joseph dit concernant Moïse que durant cette période, il fut aussi un général couronné de succès dans l'armée égyptienne, qui remporta notamment une victoire retentissante contre l'armée éthiopienne. Lors des 40 années suivantes, donc lors du deuxième tiers de sa vie, Moïse a vécu en exil dans le pays de Madian. Et en la troisième partie de sa vie, durant les 40 années suivantes, Moïse est devenu le conducteur du peuple d'Israël et les a conduits jusqu'en terre promise. D'après le livre de Deutéronome au chapitre 34, verset 7, Moïse mourut à l'âge de 120 ans. Donc, trois périodes de 40 ans qui caractérisent la carrière, la vie de Moïse sur la terre. 40 ans à la cour du roi d'Égypte, 40 ans dans le pays de Madian, et 40 ans dans le désert en tant que conducteur, libérateur du peuple d'Israël qui les mena jusqu'en terre promise. Alors, bien qu'élevé dès son plus jeune âge, comme je viens de le rappeler, à la cour du palais du roi d'Égypte, Moïse connaissait sa véritable identité. Il savait qu'il était Hébreu, fils d'Hébreu, on ne sait pas trop comment, peut-être par l'intermédiaire de sa sœur. Ce qui explique, sans vouloir bien évidemment le justifier, sa réaction impétueuse lorsqu'il tua le chef de corvée ou bien l'officier égyptien qui était commis à la surveillance des travaux des esclaves hébreux. Ces personnes, on les retrouve notamment représenté sur des monuments égyptiens, et ils sont avec des longues tiges de bois solide et flexible qui étaient apportées de la Syrie. Ces tiges dont ils se servaient comme outil pour frapper de façon outrageuse, comment est-ce qu'on peut qualifier ça ? Oui, de façon cruelle, les Égyptiens, qu'il leur paraissait manquer d'entrain dans le travail, qu'il leur semblait manquer de rendement. C'était évidemment quelque chose d'arbitraire. Luc rapporte ceci en acte 7, verset 24. Il invita qu'on outrageait et frappa l'Égyptien. Moïse enfouit ensuite son cadavre dans le sol, dans le sable, nous dit le texte, et pensant par là passer inaperçu. Et le jour suivant, il va de nouveau sur le chantier, et il va se poser, on en a parlé au matin, comme médiateur entre deux Hébreux qui sont en train de se chamailler. Deux Hébreux qui chamaillent. Et celui qui frappe l'autre intervient et lui répond, « Mais qui t'a établi juge sur nous ? Est-ce que tu vas faire avec moi la même chose que tu as fait avec l'Égyptien hier ? L'Égyptien que tu as tué, que tu as caché dans le sable ?» Alors, Pharaon va être informé du crime du meurtre de Moïse et va vouloir porter atteinte à sa vie. Et Moïse va donc devoir s'enfuir, s'exiler dans le pays de Madian. Voilà en substance, en résumé, paraphrasé le texte que nous avons lu, les cinq versets que nous avons lus. Mais à travers ces cinq versets, j'aimerais faire ressortir trois principes qui me semblent importants, trois applications qui ressortent du texte. Et la première application, c'est la colère. Une émotion qu'il faut essayer de canaliser. Deuxième principe, c'est la non-confession des péchés ou Moïse qui enterre, qui enfouit son cadavre. Donc la non-confession des péchés ou enterrer ses cadavres. Et la troisième application, c'est être à l'école de Dieu. Être à l'école de Dieu, l'exil à Madian. Alors bien sûr, on ne saura pas voir tous ces trois principes de long en large, on ne va n'en faire qu'une ébauche. Mais tout d'abord la colère. La colère qu'on qualifiait dans les temps anciens de quoi encore ? D'élément feu, voilà, d'élément feu. Parce que comme un feu, la colère, elle peut faire des ravages. Moïse, indigné devant l'injustice, se met en colère et ne peut après que constater les tristes dégâts. Certains tempéraments, comme les lymphatiques, sentent rarement monter la moutarde à leur nez. J'aimerais bien être comme l'un d'entre eux. C'est pas juste, parce que contrairement à eux, les sanguins, ils sont défavorisés, ils ont beaucoup plus fort à faire quand ils sont confrontés à la colère, à un sentiment de colère, à une émotion de colère. Et qui, en effet, ayant un tempérament sanguin, éprouvant une colère, n'a jamais claqué une porte ou bien frappé son poing sur la table ou cassé une assiette ou quelque autre objet. Je me souviens que quand j'étais dans une école, il y avait un directeur d'école qui n'arrêtait pas de se mettre en colère. Presque tous les jours, presque chaque jour, il hurlait sur les élèves et même parfois il vociférait sur le corps professoral. C'était pas gai d'être dans sa présence. On n'aimait pas être dans sa présence tellement il était imprévisible. On ne savait pas comment il allait réagir. Et certains des enseignants ont même porté plainte contre ce directeur en espérant qu'il soit évincé ou bien sans succès. Tant et si bien que certains membres de l'établissement ont demandé carrément leur mutation. Ils ont demandé de changer d'établissement pour ne plus avoir affaire avec à ce directeur qui était d'un tempérament colérique. Selon l'Église catholique, la colère fait partie de ce qu'on appelle les sept péchés capitaux. Ça ne veut pas dire que la colère est un péché plus grave ou un péché plus important que d'autres, mais ça veut dire que la colère chapeaute toute une série d'autres péchés qu'elle peut engendrer. La colère peut et est à l'origine de beaucoup d'autres péchés qui peuvent être générés par elle. Mais finalement, posons-nous cette question, est-ce que la colère est-elle un péché? Est-ce que la colère est un péché? Vous serez peut-être étonné si je réponds à la fois oui et à la fois non. La colère est-elle un péché? Ben oui et non. Contrairement au français, dans la langue du Nouveau Testament, en grec, il y a deux mots qui définissent la colère. Deux mots qui définissent deux formes de colère. Il y a tout d'abord le mot « orgé », qui est une émotion normale devant une attitude injuste à laquelle on assiste ou bien dont on est victime. Et puis, ça c'est une bonne colère, une colère acceptable. À côté de ça, il y a une autre forme de colère, il y a la colère qui est traduite par « thumos » ou « timos ». Et cette colère-là, par contre, ce n'est pas une bonne colère. C'est une colère qui est violente, une colère qui est agressive, une colère qui est ravageuse. Et elle résulte de sentiments de haine, de sentiments d'orgueil, de sentiments de jalousie. Alors pour illustrer ces deux formes de colère, orgé et thumos, on peut mentionner Marc chapitre 3 verset 5. On n'est pas obligé de l'afficher, comme ça je vais essayer d'aller un peu plus vite. Marc chapitre 3 verset 5, où on trouve la colère orgée. Quand Jésus fait preuve d'indignation et d'irritation devant les pharisiens qui lui reprochent de faire un miracle le jour du sabbat, c'est l'épisode où Jésus guérit un homme dont la main est sèche. Orgée. Une bonne colère. Et puis, on retrouve aussi, entre autres, parce qu'on trouve évidemment ce terme, ce mot colère dans bien d'autres versets, mais on voit aussi ce verset dans Actes chapitre 16, verset 17. Non, Actes chapitre 17, verset 16, pardon, où l'apôtre Paul est indigné, irrité, en colère, quand il voit toute l'idolâtrie qui règne dans la ville d'Athènes. Ou encore, on trouve ce mot « orgé » en Éphésiens chapitre 2, verset 3, où nous lisons, où Paul écrit « Nous étions par nature des enfants de colère ». Qu'est-ce que c'est qu'un enfant de colère? Eh bien, c'est un homme, un être humain, digne de la colère de Dieu à cause de son péché. Orgé. Nous étions des enfants de colère. Alors, à côté de la colère, il y a ce mot « thumos », mauvaise colère, que l'on trouve notamment en Matthieu 2, verset 16, où Hérode est pris d'une grande colère et ordonne le massacre des enfants en dessous de l'âge de 2 ans à l'époque de Jésus. Ça, c'est une mauvaise colère. « Thumos », mauvaise colère. Il existe donc une colère mauvaise, 100% négative, 100% charnelle, et une bonne colère, ou tout au moins une colère légitime devant l'injustice, les blessures ou encore les humiliations. Alors cette colère, c'est une émotion normale, comme je le rappelais il y a un instant, comme la joie, comme la tristesse, comme la crainte, comme la peur. C'est d'ailleurs une émotion qu'on appelle une émotion primaire, la colère. Alors, on peut difficilement la réprimer, la colère. Quand elle naît de façon légitime devant une injustice, devant une humiliation ou bien devant une blessure quelconque, on sait difficilement étouffer refouler la colère. C'est même mauvais de refouler la colère, parce que si on la refoule, si on l'étouffe, si on la garde en nous, elle va nous ronger et elle va provoquer du ressentiment, et finalement elle risque quand même de ressortir de façon décuplée dans d'autres circonstances. Et les scientifiques d'ailleurs confirment cela en disant que le fait de refouler sa colère peut faire augmenter la tension artérielle, on a les oreilles toutes rouges, les joues toutes rouges, ou encore provoquer ce qu'ils appellent des maladies psychosomatiques. Donc c'est des maladies qui sont sur le corps, mais qui proviennent du psychique. Et l'apôtre Paul y confirme aussi d'ailleurs également la légitimité de la colère dans Éphésiens chapitre 4 verset 26, lorsqu'il dit, et ça tu peux peut-être l'afficher Olivier, d'accord, si vous vous mettez en colère, donc c'est ici le verbe orgizo qui a donné le substantif orgé, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est intéressant de voir d'autres versions et de considérer aussi l'original, qui rend le début du verset comme suit. Il ne dit pas « si vous vous mettez en colère », mais il est écrit, il rend par « mettez-vous en colère, mais ne péchez pas ». Le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne laissez pas accès au diable. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Donc Paul n'écrit pas « ne vous mettez pas en colère », mais plutôt « veillez à ce que votre colère ne vous amène pas à pécher ». On peut donc se mettre en colère sans péché. Il s'agit bien sûr de la colère orgé, pas de l'autre, du mos. Alors comment alors la colère peut-elle nous amener à pécher? Comment la colère peut-elle devenir un péché? Alors d'une part, le texte le dit, hein, si je laisse le soleil se coucher sur ma colère, et Ingrid, elle me rappelle parfois, ne laisse pas ta colère, le soleil se coucher sur ta colère. Si je laisse le soleil se coucher sur ma colère, alors je vais entretenir ma colère, je vais couver ma colère, je vais faire mûrir ma colère en moi. Et à partir de cette colère, je vais élaborer un plan méchant pour faire du mal à l'autre. Celui-là, je le retiens. Il ne paie rien pour attendre. Je vais le rattraper au tournant. Je vais lui dire ces quatre vérités. Et on mûrit la colère. Alors là, c'est péché. Et puis, la deuxième façon, la deuxième manière de rendre la colère ou l'expression de la colère péché, c'est de, comme nous dit la suite du verset, la fin du verset, c'est de ne pas faire en sorte que la colère soit une porte ouverte au diable. De faire en sorte que la colère ne devienne pas une porte d'accès au diable. Donc il est important de ne pas laisser cette colère éclater, exploser à tout va, par des éclats de voix, par des injures, ou encore par de l'agressivité verbale, ou même de l'agressivité physique. C'est encore plus grave, évidemment. Alors, étouffer, refouler et faire exploser violemment sa colère sont deux extrêmes qui sont à éviter. Et c'est là où se trouve toute la difficulté. Je dois essayer d'exprimer ma colère, de la faire sortir par des propos, par une attitude qui vont traduire mon émotion de colère, sans pour autant blesser à mon tour celui qui m'a blessé, sans pour autant blesser celui qui m'a offensé. je dois finalement rendre l'expression de ma colère acceptable, respectueuse envers celui à qui je m'adresse. Exemple, on va taquiner un petit peu Jean-Pierre, même s'il a mal à son épaule. Imaginons que Jean-Pierre s'adresse à moi de façon blessante, humiliante. Ça lui arrive souvent d'ailleurs. Alors j'ai deux je ressens de la colère par rapport à ça, à son attitude, par rapport à ses propos, aux propos qu'il tient. Et j'ai deux façons d'exprimer ou de délivrer de la colère. Soit je m'adresse à lui d'une façon décente, respectueuse, d'une façon chrétienne finalement, en lui disant, tu sais, mon cher cousin, ça ne m'a pas fait plaisir ce que tu as dit. Ça m'a fait du mal et ça m'a même mis en colère. Alors j'aimerais bien que tu ne reproduises plus ça. Je ne pêche pas. Je me suis exprimé, j'ai exprimé ma colère, mon ressenti, une colère légitime, une émotion légitime que j'ai ressentie en moi, et je lui adresse ma colère de façon tout à fait acceptable. Donc je ne pêche pas. Par contre, si je m'adresse à Jean-Pierre d'une autre manière, d'une façon véhément, d'une façon agressive, ça tu ne peux rien pour attendre un cornichon, tu vois. Bon, je pourrais utiliser des superlatifs, mais ce n'est pas le contexte, hein. Mais je vais t'attendre au tournant. Bon, vous voyez, alors à ce moment-là, la manière dont j'exprime ma colère, évidemment, devient un péché. Ce n'est pas facile, hein. Non, ce n'est pas facile de canaliser, de gérer sa colère. On n'y arrive pas toujours tout seul. C'est pour ça qu'on a bien besoin de demander l'aide du Saint-Esprit de Dieu qui vienne nous soutenir, qui vienne nous fortifier, qui vienne nous épauler dans l'expression de notre colère. Parce que malheureusement, parfois, elle peut être virulente. Alors, on peut donc légitimement éprouver une certaine colère, orgue, c'est pas péché, mais la manière dont je vais exprimer cette colère déterminera si elle devient péché ou pas. Alors, si l'expression de la colère manque de tempérance et de respect, Paul la condamne à ce moment-là, notamment, il la qualifie d'œuvre de la chair, notamment dans Colossiens chapitre 3, verset 8 et Éphésiens 4, verset 31. Même si au départ, l'émotion de colère que je ressens est légitime. Ben, malheureusement, comme je le disais il y a un instant, il nous arrive parfois de nous laisser aller à des éclats de colère et à blesser l'autre. Mais si ça arrive, l'apôtre Paul le rappelle à la fin du verset 31 du chapitre 4 de l'épître aux Éphésiens, ou à la fin du verset 32, où il dit « Mais pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Donc il y a toujours la loi du pardon qui prévaut. Ça peut arriver qu'on se mette en colère. Bien sûr, nous restons des êtres humains avec nos émotions. Et on peut s'exprimer parfois de manière maladresse, ça m'arrive. Mais il faut savoir appliquer la loi du pardon, savoir demander pardon à son frère, à sa sœur. Voilà. Deuxième principe, après celui de la colère, c'est ne pas cacher ses fautes. Moïse enterre son cadavre, pensant que son acte va passer incognito. Il veut cacher sa faute. Il veut enfouir son péché. Il veut enterrer son péché. Comme Jonas, finalement. Il s'est caché dans la cale du bateau en se dirigeant dans une direction tout à fait opposée à celle vers laquelle Dieu l'avait envoyé. Il a fui Dieu. Il a pensé fuir Dieu parce qu'il lui avait désobéi. Il avait désobéi à Dieu, il avait péché, et il s'est caché. Comme aussi le roi Saül, souvenons-nous, quand Dieu l'a envoyé pour combattre les Amalécites, il est revenu, Et il a gardé pour lui une partie du troupeau qui devait être voué par interdit, qui devait être détruit. Il l'a caché, pensant que ça allait passer inaperçu. Mais non. Alors, bien sûr, on peut peut-être cacher une faute à un frère, cacher une faute à une sœur, cacher une faute à ses parents, à son papa, à son père, à sa mère, à ses enfants. On peut peut-être même cacher une faute à son pasteur, mais certainement pas à Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 13, nous dit « Tout est nu et découvert devant, aux yeux de Dieu, devant celui à qui nous devrons rendre compte. Dieu sait, voit, tout. Il connaît nos pensées, il connaît nos intentions, il connaît nos envies, il connaît nos cœurs, il connaît tout de nous, il est omniscient. On ne peut rien lui cacher. Il savait que Moïse avait enfoui le cadavre dans le sable. Il savait où se trouvait Jonas, même si Jonas pensait passer inaperçu alors qu'il était caché entre les tonneaux et les caisses dans la cale du bateau. Il savait aussi... Jésus savait aussi, connaissait aussi l'histoire intime de la femme samaritaine du puits de Jacob. Il connaissait tout de cette femme. Tout comme Jésus aussi connaissait ou savait où Zachée se cachait sur la branche du sycomore. Et il connaissait aussi le cœur malhonnête de Zachée. Jésus, Dieu, connaît tout. Et Jérémie, chapitre 16, verset 17... dit ceci, car mes yeux, dit Dieu, sont attentifs à toutes leurs voix. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. C'est lui, Dieu, qui sonde les cœurs et les reins. Et on sait tout cela, bien sûr qu'on sait tout cela. Mais pourtant, malheureusement, parfois, eh bien, on enterre nos cadavres. On cache nos péchés. On essaye de masquer nos péchés. De les dissimuler, de dissimuler nos fautes. On dénie parfois le péché. C'est quand même pas un péché de faire ça, il ne faut pas exagérer, c'est quand même pas mal de faire ceci ou de faire cela, alors que la Bible condamne clairement ce genre de comportement ou d'attitude. On a parfois tellement l'habitude de vivre dans un état de péché qu'on ne le considère plus comme tel, qu'on ne considère plus que ce qu'on fait, que ce qu'on dit est un péché. Alors on rationalise aussi parfois, on cache le péché en le rationalisant. On rationalise le péché en disant, par exemple, tout le monde le fait, donc moi aussi, je le fais. Maintenant, c'est plus comme ça. C'est à une époque, et cette époque-là, elle est révolue. Les mœurs ont changé maintenant. On ne voit plus ça de la même manière. On essaye de rationaliser le péché. On essaye de minimiser le péché. C'est une forme de dissimulation du péché. Alors aussi, la troisième manière de cacher son péché, c'est de ne pas reconnaître ou de ne pas vouloir confesser sa faute, c'est de la projeter sur quelqu'un d'autre. C'est le réflexe d'Adam. C'est pas moi, c'est lui. Elle m'a provoqué, ou bien il m'a influencé à faire ceci ou à faire cela. Et pourtant, reconnaître ses fautes et les confesser humblement à Dieu, c'est une démarche indispensable et essentielle à notre processus de sanctification, à notre croissance spirituelle. C'est indispensable. Si on ne passe pas par la repentance, si on ne reconnaît pas sa faute, si on ne demande pas pardon à Dieu, eh bien on va être paralysé sur le plan spirituel. On ne va pas progresser. Quelles sont les conséquences de la non-confession ? C'est important, il y a des conséquences à la non-confession. Si on ne confesse pas sa faute, il faut s'attendre à certaines conséquences. Une de ces conséquences, notamment, c'est qu'on perd l'intimité, la relation de communion avec Dieu. Comme le fils prodigue, souvenons-nous, hein, le fils prodigue, quand il a quitté la maison paternelle pour aller faire la grande vie, il ne vivait plus en communion avec son père. Il était privé de la communion de son père. Et puis, il y a aussi une deuxième conséquence, c'est la perte des bénédictions. Quand le fils prodigue a quitté la maison paternelle, il ne pouvait plus jouir de tous les biens, de tout le bien-être dont jouissait son frère, et même ses serviteurs, dans la maison paternelle. Le livre des Proverbes, au chapitre 28, verset 13, nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas et se prive de bénédiction. » Troisième conséquence à la non-confession, c'est que le fait de ne pas demander pardon à Dieu pour une faute qu'on a commise constitue ou dresse une barrière à l'exaucement de nos prières. C'est Matthieu, notamment, non, c'est l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 31, qui dit nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais celui-là qui fait sa volonté. Et puis, une autre conséquence, c'est la dépression, la perte de la joie, la crainte, l'insécurité. On trouve ça dans les psaumes, notamment le psaume 31, verset 10. Autre conséquence, lié au fait de ne pas confesser sa faute, c'est qu'on éteint ou bien on attriste le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. On éteint le Saint-Esprit, on l'attriste. On limite son action, on étouffe son rayonnement en nous. On l'empêche de continuer son œuvre en nous et on l'attriste. Le cœur peut s'endurcir aussi, même si Dieu, par sa grâce, peut aussi nous corriger, comme nous le rappelle Hébreux 12, versets 6 à 11. Si en tant qu'enfants de Dieu, nous choisissons de rester dans le péché, nous devrons subir les conséquences. Ceux qui vivent dans le péché devraient réexaminer leur relation avec Dieu. Comme le rappelle d'ailleurs Paul en 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, on peut afficher le verset s'il te plaît, Olivier. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Celui qui vit dans le péché devrait réexaminer sa relation avec Dieu. Faites donc vous-même votre propre critique, examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous? À moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à l'échec. C'est important de se poser la question, de faire un auto-examen de soi-même, une introspection. Enfin, le troisième principe important qui se dégage de notre texte, c'est l'importance de se laisser former par Dieu. Moïse à l'école de Dieu à Madian. On ne s'improvise pas serviteur de Dieu. Tout service pour Dieu, tout engagement pour Dieu devrait être précédé d'un moment de formation. D'un moment où nous sommes à l'école de Dieu, où il va nous inculquer ses valeurs, où il va nous apporter tout ce dont nous avons besoin pour être équipés dans le cadre du service que nous avons à lui rendre. Il va nous inculquer, nous apporter, nous faire connaître sa volonté. Il va nous faire connaître ses pensées. Il va nous faire connaître son plan pour chacune de nos vies. De Moïse, ce sanguin, Dieu en a fait quelqu'un de doux. C'est un miracle, hein, ça. de Moïse, ce sanguin, Dieu en a fait quelqu'un de doux. Et il est écrit ceci d'étonnant dans Nombre, chapitre 12, verset 3. Si tu veux bien l'afficher, Olivier. Bon, ça va vite, hein. Or, Moïse était un homme fort doux, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Moïse, transformé à l'école de Dieu, dans le pays de Madian, Dieu lui a appris un tas de choses. La patience, la maîtrise. Il a été à l'école de Dieu pendant 40 ans. Et Dieu veut aussi nous transformer, Dieu veut aussi nous façonner, Dieu veut nous instruire pour que nous puissions être efficaces dans son œuvre, pour que nous puissions être efficaces dans un service quelconque que nous lui rendons. Quand Moïse, la première fois, s'est rendu sur le chantier de travail de ses frères hébreux, il est intervenu, mais il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à remplir ce rôle de libérateur que Dieu va lui assigner plus tard, 40 ans plus tard, à travers le buisson ardent, après ces 40 années passées dans le pays de Madian. Les disciples de Jésus ont aussi passé un temps de formation. Durant 3 ans, ils ont vécu dans la présence de Jésus, ils l'ont vu agir, ils ont entendu son enseignement. L'apôtre Paul aussi, d'ailleurs, avant d'entamer son ministère, juste après sa conversion, quand il a été terrassé sur le chemin de Damas, il n'est pas rentré tout de suite à Jérusalem, mais il s'est éclipsé dans le désert d'Arabie, où il n'a consulté ni la chair ni le sang, nous dit Galates chapitre 1, versets 16 à 18, mais où il a reçu sa formation de Dieu lui-même. Dieu l'a équipé, l'a formé, avant qu'il ne devienne ce grand apôtre des gentils des païens. Alors, il y a aussi David. David, il a dû errer pendant combien d'années dans le désert du Judée. Dieu l'a aussi préparé jusqu'au moment où son onction va devenir effective. Avant de devenir roi d'Israël, avec toutes ses qualités, il a été à l'école de Dieu. Il en avait déjà auparavant, bien sûr, mais Dieu a parachevé, a poursuivi, a continué son œuvre en lui pour le former. C'est important. C'est important pour tout un chacun, pour chaque chrétien, d'être à l'école de Dieu avant un service quelconque que nous sommes susceptibles de lui rendre. Dieu veut que nous passions du temps avec lui, dans sa présence, pour recevoir de lui la formation qu'il veut nous apporter. À travers la méditation, à travers la lecture de sa parole, à travers la prière, la communion que nous pouvons établir avec lui, c'est important. Pour conclure, on va faire une toute petite conclusion. On va rappeler simplement les 3 principes important qui se dégage, qu'on peut faire ressortir du texte que nous avons lu. 3 axes principaux. Premièrement, il est normal parfois de ressentir une certaine forme de colère. C'est légitime, ce n'est pas un péché. Mais comment gérons-nous cette colère? Deuxième principe que nous avons mentionné, c'est lorsque nous commettons une faute. Est-ce que nous la reconnaissons? Est-ce que nous la confessons pour recevoir le pardon que Dieu veut nous accorder sans réserve, sans limite? Ou bien, est-ce que nous enterrons nos cadavres? Troisième principe. Enfin, passons-nous du temps à l'école de Dieu pour nous préparer à œuvrer pour lui, pour un service que nous avons à lui rendre? Est-ce que nous passons du temps pour recevoir de lui la formation dont nous avons besoin pour pouvoir accomplir la tâche qu'il nous assigne?